Aleluya, aleluya. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec vous.
Et avec votre esprit.
J'ai de Jésus-Christ selon sa main. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, l'épouse de son frère Philippe, que lui-même avait pris pour épouse. Et Jean, en effet, lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et Hérodiade en voulait donc à Jean. Il cherchait à le faire mourir. Elle n'y arrivait pas parce que le roi avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Et cependant, il l'écoutait avec plaisir. Voici, à une occasion favorable, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, les chefs de l'armée, et pour les notables de la Galilée. Et la fille d'Hérodiade fit son entrée, et elle dansa. Elle plut à Hérode et ses convives. Et le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Alors elle sortit, elle va dire à sa mère, « Mais qu'est-ce que je vais demander ?» Et Hérodiade répond, la tête de Jean, le baptiseur. Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi. Elle lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean, le baptiseur. » Et le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Et le garde s'en alla décapiter à Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat. Il donna le plat à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps, et ils le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole, Dieu, louange à toi. Seigneur, ton évangile, Seigneur, s'inscrit dans nos âmes. Alléluia. Nous bénis comme la rose dans la verdure, toute l'or de la terre. Et pénètre de sa bénédiction toute chair, assoiffée de virginité, de sainteté, de vie divine toute pure. Qu'ils puissent voir cela dès cette terre devant leurs yeux, s'ouvrir les portes de la Jérusalem d'en haut. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Louange à toi, Alléluia. Cette nuit. Ah oui, c'était génial, les coussins là, cette montagne de coussins, ma jambe là sous l'escalier. Impeccable, c'est vraiment impeccable. Ah, ce matin, plus rien. Ah. Mais aussitôt debout, hein. Les crevisses. Personne ne me l'a proposé.
Ah, mmh. Non, faut encore le faire.
Hein?
Vous en voulez, là?
Oui.
Je vais
parler. Il y a peut-être une trombose, il faut peut-être faire une... un Doppler quand même. Est-ce qu'il peut y avoir phlébite?
Il n'y a rien de tragique, hein, mais.
Ouais. Si, il peut y avoir un caillot et phlébite. Hein? Donc, ça, il faut. Il faut
l'enlever. C'était ça pour elle. C'est des chalumeaux, des petits chalumeaux. Des chalumeaux, des petits chalumeaux, ça brûle, ça brûle, ça brûle. En dessous. Vous avez une usine. Une usine de feu à l'intérieur. Mais extraordinaire, bien, bien, là, le montage, là, je le retiens, là. Montage de cette nuit, qu'est-ce que j'étais bien. Hein? Ça faisait longtemps. Voilà, Saint Jean-Baptiste. Alors, pour moi, pour nous, aujourd'hui, jour de fête. Ah, jour de fête. Ça, le martyr de Jean-Baptiste, jour de fête. Joie des pauvres. Je fête l'anniversaire. Je fête l'anniversaire aujourd'hui de la mort d'un de mes plus grands amis. C'est le père Jean de Montmorin. Père Jean de Montmorin, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi pauvre que lui. C'est une espèce de Saint-Benoît-Joseph Labre. Je pense déjà que ça. Il était normand, quoi. C'est marrant, il avait une peau extraordinaire, comme du cidre. Mais il était normand. Et c'est lui qui a fondé Montmorin avec le père Emmanuel. Enfin, a fondé. Père Emmanuel, c'était la tête, lui, c'était les mains. Lui. Prenez la pioche, la pelle, et vous êtes tout. Vous êtes tout. Sinon, il s'était converti en Afrique pendant la guerre d'Algérie. Jésus, était là sur le sable du Sahara, au sud de l'Algérie. Et il avait le fusil mitrailleur dans le dos avec le commando. Il a enlevé son fusil mitrailleur, il l'a posé sur le sable et il est parti vers l'Orient. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, Jean ? Il a dit, bien, je cherche notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu partir vers l'Orient. Alors il est parti par là, on l'a mis en prison. C'est la guerre quand même, hein. Normalement c'est la peine capitale. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'il a commencé sa conversion. Et c'est en Afrique, pour la Saint-Augustin, patron de l'Afrique. Il s'est converti 33 ans après. Il est mort en Afrique. 33 ans après, après 13 ans de sacerdoce avec le père Emmanuel. Ça fait partie de mes plus grandes gloires d'avoir vécu avec cet homme. Jamais cru que ce soit possible de vivre comme ça pour un être humain. Pour moi, d'être pareil, c'est dingue. Et Père Emmanuel est mort, il en est mort. Avec des gens merveilleux, vous savez. Sur la terre, on vit avec des gens. Père Jean était. Je vous dis, c'était. Il dormait pas, sinon. Le Père Manuel disait à Jean. Moi, je veux que tu dormes, Jean. Alors, dans ton étage, là, regarde, pour pas dormir, tu sais, rester debout et assis, tu te coinces entre le mur et la table pour pas dormir. Alors, je t'ordonne de mettre un matelas pour dormir. Bon, et bien entendu, mon père, et bien, puisque vous m'avez demandé et bien, de prendre et bien, un matelas pour dormir, eh bien, je mets un matelas. Il a mis un matelas.
Il n'a pas dormi.
Hein?
Il
n'a
pas dormi.
Non, il n'a jamais été sur son matelas toute sa vie. Mais il avait mis le matelas. Voilà. Et s'il commençait à se réveiller, notre Seigneur Jésus-Christ a dit bien veillez et priez. Il n'a pas dit dormez. Et affaissez-vous. Donc au contraire, bien levez-vous. Si vous êtes fatigué, et éveillé. Il y a certains chrétiens qui, quand ils sont fatigués, nous les connaissons, et bien ils dorment. Et bien, il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et certains diraient qu'il était excessif, comme toujours d'ailleurs, ouais, il était excessif, mais il n'était pas excessif, il était. Extraordinaire. Et dès qu'il sentait sa mère vraiment trop fort, il s'obligeait à sortir dans la neige. Il marchait dans la neige comme ça. Pendant une heure, deux heures, jusqu'à ce que le sommeil parte, il revenait. regardait Paris. C'est vu qu'ils faisaient tout. C'est vu qu'ils faisaient tout. Tous les travaux durs, 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 pénibles, pénibles, pénibles. C'est rien. Pas rarement. Très rarement. Pour manger, ils prenaient du blé. Ils le broyaient dans une machine à café. Ils prenaient du blé comme ça. Sa plus grande joie, c'était de nous offrir une machine à café pour broyer du blé. C'était, et bien voilà, vous devriez prendre bien ce moulin à café pour vous faire du blé. Et il faut le prendre juste quand il vient d'être broyé. Notre Seigneur Jésus-Christ, a choisi du blé, et bien pour faire l'Eucharistie. Donc prenons du blé. Quand il faisait son serment, il fallait voir ce souci qu'il avait. Ce souci qu'il avait de servir notre Seigneur Jésus-Christ, quoi. Et alors, sur sa peau, là, si semblable à celle du cidre, tout tenait un peu brillant là sur son front, et puis et l'eau coulait, il transpirait, transpirait. Ça transpirait des grosses gouttes par terre. Et puis après, il disait la messe. Il marchait sur les routes de France. Il allait à Sainte-Pomme, il allait à Rome, il allait à différents sanctuaires. Il était connu à Sainte-Pomme. C'est là que le père Emmanuel l'a vu pour la première fois. Il y a un jour d'hiver qui était très 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 froid. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, dans les années 70. Mais très 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 froid, je crois pas. Une année, je me rappelle de ça. Une année exceptionnellement froide en France. C'était cette année-là, il était à Sainte-Baume. Il faisait tellement froid que les Dominicains avaient abandonné la Sainte-Baume en haut. Donc on ne pouvait pas monter à Sainte-Baume. Ils avaient même quitté donc là le couvent là-haut. Eh bien, Jean a dit, eh bien, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a dit, le gel et le froid bénissent le Seigneur, nous devons monter, eh bien, dans le rocher de la Sainte-Baume. Et donc, il va monter. Puis c'est mêlé au pied de la croix pendant ce grand froid. Et puis, tout le monde était parti, puis, en bas, quoi. Je ne sais pas si vous avez été à la Sainte-Baume. Monsieur Jean s'était mis là. À genoux. Au bout de deux ou trois jours, on s'est inquiété en bas. On a fait venir les pompiers, ils sont montés. Ils ont trouvé Jean à genoux, au pied de la croix, dans la grotte de la Sainte-Baume. Les genoux étaient collés au rocher par la glace. Vous en connaissez beaucoup, genre comme ça. Ses parents l'ont fait mettre à l'hôpital psychiatrique au retour de l'armée. Alors, on lui donne des médicaments. Prozac, Adol, si tu veux, légumisation. Mais les médicaments n'avaient strictement aucun effet sur lui. Aucun. Alors on disait, tu triste, tu vas le cracher, le mettre je sais pas où, dans l'arrière à l'endroit. Et donc tous les soirs, il l'avait mis dans une section spéciale de forcenés, de gens qui résistent, qui font. Et le type qui s'occupait de lui, l'infirmier, lui cassait la figure tous les soirs. Et pourquoi il était en prison? Tout simplement parce qu'il disait, moi je cherche notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il est rentré en France. Tes parents me l'ont dit, tu pries d'aller travailler. Tu as un diplôme, tu es ingénieur, je sais pas quoi, d'électronique. On t'a payé tes études. Et bien, il dit, je cherche plutôt, Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, parce que c'est comme ça, hôpital psychiatrique. Et tous les soirs, pendant 2 ans et demi, le gars lui frappait, la figure, le coinçait contre le mur. Il dit, eh bien, la chose la plus difficile que nous avons eue, il disait jamais je, jamais. Je n'ai jamais entendu dire je. C'est un pronom personnel qu'il ne connaissait pas. Eh bien, quand nous étions, dans l'hôpital psychiatrique, la chose qui nous a été vraiment la plus difficile, c'est quand il nous cassait, la figure. C'était de regarder et de chercher notre Seigneur Jésus-Christ à travers son visage. Le médicament n'avait pas d'effet sur lui. Et son frère avait pitié de lui. Il l'a fait sortir, il a signé le truc. C'est marrant, hein? Et du coup, il a pris la route comme Benoît Joseph Labre et... Il a cherché Jésus partout. Partout. Finalement, il marchait la nuit parce que quand il marchait le jour, les gens, les enfants lui jetaient des pierres dans les villages. Le flic le prenait un panier à salade. Si un lapin avait disparu dans une petite ferme, on téléphonait au flic, il y a un salaud qui est passé, il nous a piqué un lapin. Et il passait son temps, s'il marchait le jour, il passait son temps en prison. Alors, il dit, c'est pas la peine. Donc il marchait la nuit. Quand il s'asseyait par terre, fatigué. À côté de lui, il y avait du pain. Il y avait du pain frais. Pratiquement tout le temps, c'était comme ça. Quelquefois avec quelque chose dedans. Il est arrivé à Montmorin, il y avait 2 sœurs qui étaient là, sœur Gertrude, qui était suédoise, magnifique suédoise. Puis sœur Maria, qui était une portugaise, elles étaient toutes les deux là, à la Dotula, là où il y avait la Santissime Barbine. Dans la chapelle. C'est une ruine, quoi, un peu, qu'on a essayé de remettre en habitable un peu. Mais enfin, à cette époque-là, il n'y avait que ces 2 petites sœurs qui étaient là, c'est tout. Et c'était loin de tout, parce qu'il fallait marcher à pied à un chemin de terre sur 4 km. On arrivait au fond, un ruisseau passait là qui s'appelait Loul. Sortait d'un rocher à 1 km plus haut, dans la montagne. Là, d'un coup, l'eau qui sort du rocher, l'eau était froide. Il fallait passer un petit pont avec des grosses plaques de métal. Et un jour, Monsieur Jean était là. Il a fait les 4 km, il a vu le ruisseau, il a vu la maison là. On lui avait dit que le Père Emmanuel était là, et le Père Emmanuel a dit, Je t'en supplie, monsieur Jean, venez me voir, j'ai besoin de vous. Alors il est venu, il a fini par venir, et il s'est mis là. Il regarde. Il regarde ici. Et les sœurs, au bout d'une demi-heure, voient que quelqu'un est là, un homme seul. Vraiment bizarre. Une demi-heure plus tard, toujours le même. Et les pauvres se disent, ça y est, on est foutus. On est foutus, c'est pareil, on est seul, sans défense. Il y a un problème, quoi. Donc elles ont pris leur courage à deux mains, elles ont pris un grand couteau de cuisine. Et l'autre a vraiment un gros bâton, quoi. Et puis, elles se sont dit, à nous deux, on va se débrouiller. Elles sortent de la cuisine, elles courent vers la rivière, elles traversent le petit pont de se précipitent sur lui en hurlant. Qu'est-ce que vous voulez, Tatinator? C'est une être horrible, surtout la sœur portugaise. La sœur portugaise, oh là là. Oh là là. Oh, une langue tranchante, tu dis pas, tu es rien qu'avec sa langue là. C'est des ermites, d'abord, hein, c'est les deux premières ermites. Elle l'invective, etc. Et puis, elle était prête à frapper, hein, elle avait le grand couteau. Enfin, elle faisait avec lui ce que tout le monde avait toujours fait avec lui pendant 10 ans sur les routes. On n'aime pas les pauvres. Chercher notre Seigneur Jésus-Christ. Difficile de voir notre Seigneur Jésus-Christ à travers ses ermites. Enfin, il cherchait. Et c'est comme ça que M. Jean est rentré à Montmorin. Moi, je suis venu 3-4 ans plus tard. À Montmorin, et pas de la même manière. Ah. Monsieur Jean, oh, c'est gentil. Le gardien de la Santissima Bambina. Saint-Augustin, veille du martyr de Jean-Baptiste. C'est la congrégation Saint-Jean, hein, il en faisait partie comme moi d'ailleurs. Nous avons pris l'habit le même jour, à Noël, pour moi, 78. Nous avons pris l'habit le même jour, tous les deux. Père Emmanuel nous a pris de donner l'habit. Différent, je perds rien, moi. Lui, c'était le pauvre par excellence. Le pauvre aussi substantiel, parce qu'on pourrait dire. Moi, j'étais BCPG, venant de Paris, je sais. Cateau brillant, cateau soleil. Et c'est un congrès sur Saint-Jean qui l'a assassiné. Il l'a mis à mort. C'est terrible. Primaire est parti. Il s'est endormi et il s'est dit, bon, ben, il faut qu'on s'occupe de Jean. Voilà. Je ne dirais pas comment ils ont fait, mais... Et l'éditorial du Père Marido, c'est de dire, on a fait miséricorde. On a accueilli chez nous un fou. C'est incroyable. Quand j'ai lu ça, impressionnant. J'avais vu qu'il y avait ça. Si mais c'est pas l'ombre d'une folie là-dedans, c'était pas la moindre ombre, pas la moindre, un équilibre parfait, quoi. C'est vrai, on écrit. Le Père Marido était un homme extraordinaire, mais quand même. Vous savez, aimer les pauvres, c'est quand même important. Moi, je crois que le partage des eaux, il se fait là. Tu aimes les pauvres follement, ou bien tu les aimes pas. Quand c'est là, on voit si quelqu'un est chrétien, enfin, est un disciple de Jésus. Si quelqu'un n'aime pas le pauvre, quand je dis le pauvre, c'est pas parce qu'il est pauvre, hein, c'est parce qu'il est à ça et tout. C'est à ça. Ma cousine Hélène est mariée avec un chirurgien à Toulon. Il s'appelle Paul. Paul lui dit, j'ai rencontré deux saints dans ma vie. Il avait vu Jean, c'est frappant quand on voyait Jean, ça vous fait pour la première fois. Vous voyez Jean, c'est pas sa peau, rien, son visage, n'importe quoi. Ça te faisait un effet, la première fois, si tu te laissais, enfin, tu faisais pas attention, puis tu le vois avant. Ça te faisait un effet, comme une commotion, tu vois, ça faisait comme ça, mais irrépressible, hein. Où tu voyais simplement son habit. Quelquefois j'allais à son même étage, je rentrais, je voyais son habit. De rien que de voir son habit. Quand j'allais lui demander une permission, par exemple, une fois, j'allais lui demander une permission. Et puis, incroyable, il était sur la table de son hermitage, enfin à la cuisine. Et puis ça va, pour pas dormir, il se dit, il se coinçait entre le mur et la table qui était assez lourde. Et donc, mais là, bon, il s'était assis du coup. Et du coup, en fait, il dormait. Donc, on a mieux dormir quand même. Et en fait, il s'était assoupi. Et il y avait la petite souris qui était là, qui venait comme ça sur sa main là. Qui montait jusqu'à sa tête. Alors, il dormait, mais il faisait comme ça. Non. C'est Jean. Il se réveillait. Il respectait les petites souris. Il mettait toujours deux ou trois petites graines sur sa table, ouais, c'est tout. Petite graine de blé. Il était fasciné par l'apparition de Jésus en Normandie à Dozulé. Dès qu'il a su que Jésus était là, qu'il était venu comme ça, à quelques centaines de kilomètres de l'endroit où il est né, là, je ne sais pas, ça l'a fasciné, cela. La croix glorieuse. La croix glorieuse. La croix glorieuse. C'est pas assez. Je crois que ça y est, ça a été son. C'est Jésus dans sa. Qui vient sur la terre pour montrer la croix glorieuse. Ça l'a. Ça, je crois. Je crois qu'à partir de ce jour-là, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie de religieuse. Il a compris que là, ça y est, le tournant se prenait, quoi. Le grand tournant. Alors, il a porté ça. Il a porté ça dans son cœur. Il a porté ça dans ses nuits. Il a porté ça dans ses instants. Il a porté ça dans... Il l'a porté, il l'a porté. Il ne sait rien, mais il l'a porté. Et un jour, il a eu la permission, enfin... d'aller là-bas, à Tosuke, patatras, il y avait la télévision, il y avait Antenne 2. Quelqu'un qui était religieux, vous comprenez? Antenne 2 l'interroge, il dit, mais vous voyez ça, c'est pas... C'est satanique, forcément. Tosuke, c'est satanique. Il croit que c'est satanique, bien sûr. Donc, Antenne 2 enquête pour montrer le truc satanique. Les gens ont dit, bien moi je suis prêtre et bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis que dans ce lieu, bien ça vient de Dieu. Ici, ce n'est pas satanique. C'est Dieu et bien directement. Et passé à la télé. C'est pour ça que dans la congrégation, on l'a condamné à mort. Il est mort parce qu'il a dit la vérité sur ton sujet. Il est mort pour la justice et la vérité. Ça n'a pas traîné. Hein. Et c'est lui. Il a dit, c'est une des dernières choses de sa vie, il a dit, il faut planter des croix. Il faut honorer, donner honneur, louange et gloire à la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par sa croix et son sang qu'il nous a sauvés. Alors c'est une des dernières choses qu'il a fait dans sa vie avant de partir, d'être exilé en Guinée pour mourir là-bas. Il a dit, il savait très bien que je partais en Guinée. Climat, tout ça, il savait que. Il a dit, hein, je vais partir en Guinée. Là, je ne reviendrai pas. Je serai mort avant un mois. 30 jours après, il était mort. Tout le monde savait d'ailleurs qu'il mourrait si on l'envoyait là-bas. C'était vraiment une condamnation à mort. Il se passe des choses comme ça, c'est. La congrégation sale, vraiment, très sale. J'ai foutu gris, là, c'était pas beau ce qu'ils ont fait. Marido, là, c'est pas bien. Il a fait une croix comme ça avant de partir de Montmorin. Rouge. 6 mètres. Il a planté tout seul, il fallait le faire, je peux vous dire. fallait le faire, m'étonner là-haut.
Elle y est toujours.
La foudre est tombée dessus. La foudre est tombée dessus. Tombée sur la croix de Jean, elle s'est vrillée trois fois sur elle-même, tordue et arrachée. Alors il a compris que c'était une croix de 7 mètres 38 qu'il fallait faire. Blanche, je crois. Puis il est mort, mais il n'a pas pu la faire, il n'a pas eu le temps. Donc à sa mort, il a fait 2-3 apparitions. Moi, je connais au moins 3 personnes qui l'ont vu là, apparaître, et il a dit il faut faire des croix de 7 mètres 38 sur toute la terre. Et c'est à cause de lui hein, qu'on a planté 5483 croix de 7 mètres 38 sur toute la terre. Maintenant, celle-ci. C'est pas un jour cette espèce d'enveloppement par les 5480 plaies de Jésus qui pénètrent la terre pour les enfants avortés, pour la mystère de compassion de la sortie Maromila dans les enfants de la terre, pour leur baptême, pour le baptême de la terre, pour sa même Père Jean. Serge, tout ça, tous les ouvriers de la croix, tous les Gérard, etc. Parce qu'ils ont dû affronter, quoi, ce qu'ils ont dû affronter pour faire ces croix. Jean était derrière eux, toujours. Le Père Jean. Les croix glorieuses, ça vient de la Santissima Bambina de mon roi. Ça vient de Mystère de Compassion de Marie. C'est. Hein, aujourd'hui. C'est très émouvant, vous savez, le Père Jean. Et voilà en Guinée, c'était à 29, c'était à 28, pardon, la veille du 28, la nuit du 28 au 29, pour son 33e anniversaire de sa conversion, pardon. C'est un anniversaire de sa conversion. Et celui qui était dans la cellule à côté, parlait à Frère Saint-Jean, il l'entendait parce qu'il y a une cloison quand même, puis on entend. Alors Jean, il ne veut pas dormir, il ne dort pas. Donc il ne dort pas, il ne dort pas. Donc. Et puisqu'il faut veiller et prier. Donc il faut veiller. Donc Jean, bah, pour ne pas dormir, marche. Il marchait du coin à l'autre de la cellule, il marche en priant. Puis après il s'assied parce que ça va, ça va. Si le sommeil revient, il se relève, il marche. Donc là, le frère l'entendait, il s'est réassis, la porte s'est ouverte de sa cellule, Jésus est entré. Il dit à Jean, il a pris la main, il l'a levé, et il l'a amené à la porte. Et là, il y avait le Père Emmanuel. Alors quand Jean a vu le Père Emmanuel à la porte avec Jésus, il a compris qu'il était mort. Il s'est retourné, il a vu que son corps était sur la chaise. Jésus permet en prison et ils l'ont amené à la Sainte Vierge. Ça s'est passé comme ça. Avec la Sainte Vierge, ils sont allés, je peux pas vous dire où ça. Parce que c'est passé. Il est mort comme ça. C'est un Jean. Jésus qui prend par la main, il allait au ciel. Il amène à la porte. Il y avait le Père Emmanuel. Thank you. C'est bouleversant d'amour, cet homme. On peut pas. C'est pas une question de juger, en plus ça n'a rien à voir. Comme disait ma soeur Mamorine, tu le vois, tu pleures. Tu le vois, tu pleures. Que la sainteté puisse exister sur la terre, c'était le moment quand même. Ah oui. La Pamela est mort le 19 mars 1992, c'est quelque chose. Ben, il est mort. Saint-Jean-Baptiste. Dans l'année, on ne sait pas trop. C'est le 28 ou 29, pas trop d'avril. 1994. Eh bien, je peux vous dire les choses. Une fois que les deux sont morts, c'est vraiment à partir de cette date-là, peut-être au mois près, ou à la semaine près, que chez nous, à la communauté Saint-Jean, on a pris les armes pour combattre le pape. Jean-Paul II. Pour dire que le pape Jean-Paul II était... ignorant. Qu'on était au-dessus de lui. Et qu'il n'y avait pas d'animation immédiate en philosophie. C'était une démonstration irrenversable. L'animation immédiate n'existe pas. Et on est. C'est à partir à la mort du Père Manuel et du Père Jean, surtout. Ça a été fini. Et toute la congrégation des petits gris de Saint-Jean a basculé pour engendrer ses coups de cime et soi-même sur la terre tout entière. Donc le fou de Montmorin, c'est lui qui tenait, quoi, la vérité et la justice. À la tête de sa commune, sa congrégation, le jour où il est fou, cet hérode, d'avoir coupé la tête de Jean-Baptiste à cause du froufrou d'une petite gonzesse. Il est cinglé. Qu'est-ce qu'on ferait pas? On est dans l'esprit mondain, on est capable de tout. De tout. Mais là, c'est pas moi, j'ai assisté à ça, je vous assure. Cette espèce de. Parce que j'ai vu la grandeur de Dieu dans la communauté des frères. La grandeur de Dieu. C'est une œuvre. Dieu unique dans l'histoire de l'Église, complètement la bascule d'un seul coup, 94. Et puis c'est à partir de cette année-là, du coup, comme j'étais à Hobbes, j'ai commencé à faire les messes pour les enfants nés. À Cotignac. Et l'évêque, Mgr Madex se servait de moi. Pour travailler contre les frères de Saint-Jean. Les frères de Saint-Jean disaient on n'a pas à faire de messe, on a le sanctuaire. Et puis il n'y aura pas de messe pour eux, puis c'est tout. C'est vrai. On ne sait même pas s'ils ont une amour. On est sûr même qu'il n'y en a pas. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Vous voyez le problème? Donc ça, la guerre a commencé, quoi. Il y a vraiment une guerre. C'était vraiment une guerre. Hein. Une guerre profonde, hein. Une guerre grande contre la justice, la vérité. Contre Saint-Joseph, quoi. Alors, il y a une chose, en fait, aujourd'hui, Saint-Jean-Baptiste, le martyr de Saint-Jean-Baptiste, le martyr. Quand il est né, son père était muet. Il a retrouvé la parole. Et il a dit ce psaume qu'on chante tous les matins. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël. Et puis, il y a ce mot qu'il dit à propos de son fils, enfin, oui. Né de Joseph et de la Vierge Marie à l'intérieur de son unité responsable avec Élisabeth. Toi, petit enfant, ça sera appelé prophète du Très-Haut. Ouais, c'est incroyable, je ne me rappelle plus. Plein de justice et de vérité, il a ce mot. Il est le soleil de la justice et de la vérité. Saint Jean-Baptiste, c'est le soleil de la justice et de la vérité. Le soleil, autrement dit, de Saint Joseph, est du Verbe de Dieu, transverbé en toutes choses. Il est le soleil de la rencontre, il est le point de rencontre entre Saint Joseph et la justice. La paternité de Dieu dans la transverbération de la Jérusalem véritable, c'est exactement ça, Saint Jean-Baptiste. Et l'Église ne sait pas, l'Église en la fêtant, et bien dans l'oraison, elle dit il est mort pour la justice et la vérité, et dans la préface aussi, justice et la vérité. Et dans l'oraison aussi, pour la justice et la vérité. La justice, hein, vous rappelez, hein, j'espère, la justice, c'est Saint-Joseph. La grâce, c'est Marie. La sainteté, c'est Jésus. Mais Saint-Jean-Baptiste, il est mort pour la justice et la vérité. Il était bien mort à cause de ça. Et la justice, derrière la justice, il y a le Père, derrière la vérité, il y a le Fils. Et bien, cette conjonction, lui, il la baptise dans les eaux du Jourdain, les eaux qui descendent en bas. Et le soleil de la nuée du Saint-Esprit est venu au bon pour ce baptême, pour que ça puisse descendre dans les eaux d'en bas. Joseph était mort. Jean le baptiseur a baptisé à partir du moment où Joseph est mort. C'est pendant ce temps-là que je suis marché sur les routes pendant 153 jours en silence, en aimant et en faisant des actes de bonté. C'est extraordinaire cette suspension qui s'est faite à la mort de Saint-Joseph. Et les eaux qui descendent en bas, le soleil, et le Père fait entendre sa voix. Jean-Baptiste est très 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 lié à l'époux, c'est-à-dire le Père, il le dit. Moi, j'aime l'époux, j'aime le Père dans sa spiration active. C'est pour ça qu'il est agréé. C'est ce qu'il dit. C'est ça, on rentre dans l'Évangile, où il y a la parole sur la responsabilité agréée de Dieu. Ce que remarque le pape Jean-Paul II, l'époux, l'épouse, la voix des épousailles. Et Saint Jean-Baptiste y baptise pour que les gens descendent jusque dans Saint-Joseph, au fond des enfers, dans un mystère d'attente de l'apparition de la Jérusalem véritable. Et la vérité, c'est la transverbération. Pourquoi? Parce que Saint-Joseph, s'il est mort, c'est à cause de la croix. Il n'était pas l'Immaculée Conception, Saint-Joseph, vous comprenez? Et donc, la stigmatisation de la transverbération dans sa chair et son sang, dans son cœur brûlant, brûlé, quoi, du mystère de l'hypostatique déchirée, c'est sûr. Il en est mort. Il en est mort. Et donc la transverbération se trouve dans l'âme des scribes de Saint-Joseph, qui va carrément en dessous de tout. En dessous d'Abraham, en dessous de Saint. C'est lui qui porte Saint-Abraham. Les limbes et tout. Et Jean-Baptiste lui baptise pour que les gens puissent être liés. Il les fait descendre et les enracine dans le cœur transverbal de Saint-Joseph au fond des enfers. Et il est mort à cause de ça, pour la justice et la vérité. Et en faisant ça, il a été une cause méritoire pour l'Église qui est aux portes. Ça qui est de l'Apocalypse, c'est le secret de la vie de Dieu. C'est lui hein, qui, en tant que prêtre, il était prêtre, Jean-Baptiste, hein, fils de prêtre. Quand il a baptisé Jésus, il avait les 12 pierres qui étaient fautes. Hein. On le présente toujours avec la culotte de peau. Et puis, il a vu Jésus. Hein. Il a levé le doigt, il a dit là-bas, il dit, voici la tête de Dieu. Abraham, quand il sacrifie Isaac, son fils, il sait très bien. Il sait parfaitement, il voit parfaitement ce qu'il fait. Et il sait qu'en faisant ça, il engendre à l'intérieur de Dieu, à travers le Messie, qui lui fait réaliser ça à l'intérieur de son acte d'obéissance. Il voit parfaitement que le Père est ébranlé. Et que du coup, il va faire ce qu'Abraham a fait, il va donner son fils pour le sacrifier. Abraham le sait très bien, qui principe méritoire de l'envoi du fils pour être immolé. Et son fils, au moment d'être immolé, il lui pose la question, la première question qui est posée dans la Bible. Où est l'agneau? Il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et cette question, cette première interrogation, qui se trouve dans la Bible, elle traverse tout le temps, tous les prophètes, elle traverse les psaumes. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? C'est impressionnant. Et c'est Jean-Baptiste qui dit, qui donne la réponse, qui dit, voici l'agneau de Dieu. C'était le 10 du mois de Tisri. C'était un acte sacerdotal suprême que de désigner l'agneau, le bouc émissaire. L'acte sacerdotal de désigner l'agneau. L'agneau, c'est plus que la vie, c'est plus que l'incarnation, c'est plus que la mort et la résurrection de Christ. L'agneau, c'est plus que ça, c'est plus que la Pâque. C'est plus que le ciel de la résurrection, c'est plus que l'amour de l'ascension, l'amour éternel et quotidien de l'ascension. C'est plus que tout ça, c'est quelque chose qui déchire tout ça et qui fait émaner le parfum de Saint-Joseph dans la Jérusalem, de la création, d'une nouvelle création. Et Jean-Baptiste est le cœur où s'épanouit le règne du Sacré-Cœur et qui ouvre le lys du parfum qui parfume le sépulcre glorieux de l'au-delà de l'agneau. Et c'est lui qui désigne l'agneau de Dieu. C'est un acte sacerdotal qui prophétise au fond quelle est la mission du véritable Israël de Dieu au milieu des multitudes du soleil levant qui vient nous visiter. Astre d'en haut au milieu de la ténèbre, qu'on passe de l'astre au soleil. Fait ça. la justice et la vérité. Nous allons retenir ça, la justice et la vérité. Et oui, dans le fond des enfers, Jésus s'arrache de son corps sur la croix et descend. Et la justice et la vérité se conjoignent dans les deux âmes déchirées du papa et de son fils bien-aimé Jésus. Dans la croix glorieuse, les deux se conjoignent et à travers cela, dans cette rencontre prodigieuse, Dieu le Père, Dieu le Fils se fondent mutuellement. Et la lumière de gloire est créée, engendrée par l'Immaculée Conception dans sa maternité divine. Et ils s'engendrent et ils font émaner le monde de la résurrection et de la lumière de gloire pendant 36 heures. Le mystère de la croix glorieuse, c'est très 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 fort. Et Jean-Baptiste en est la cause méritoire, par sa pauvreté. Le père Emmanuel disait, quand il faisait un sermon sur la mort de Jean-Baptiste, il disait, je me rappelle toujours, j'ai entendu plusieurs fois, hein. Pour ça je me rappelle, il dit, Jean-Baptiste est mort sans gloire. C'était pas glorieux, la mort de Jean-Baptiste, franchement. Les gens qui meurent pour une grande cause. Saint Paul, Saint Pierre, c'est vrai, ils sont morts. Parce qu'un ado a fait un petit foufou. Il a remis les tripotins, du coup il est mort à cause de ça. Il est mort sans gloire. Pour faire plaisir aux gens bien là, qui étaient dans la fête. Pour dire, oh mon Dieu, c'est terrible ça. Il est mort pour rien, quoi. Il est mort pour une boutique, il est mort pour une. Alors, ça a impressionné beaucoup le père, mais il est mort sans pleurer.
Non, parce que.
C'était l'humilité parfaite.
Elle avait le diable en elle et elle voulait sa destruction pour faire les choses. Elle avait le diable en elle et elle voulait la destruction de Jean-Baptiste.
Ah, ça, c'est sa maman.
Non, mais la
petite folle. Fille.
Non, la
maman. Oui, la femme d'Hérodiade. Hérodiade, la maman. La concubine.
Oui, la concubine avait le diable en elle et elle voulait la mort de cet homme.
Oui, oui,
oui. Donc, c'est la gloire.
Oui, oui, non, tout à fait. Mais moi, je vous dis ce que disait Père Emmanuel. Il dit, il est mort. Finalement, il est mort. Pour quelle raison? Parce que la fille de voilà, a fait un petit foufou, bon, pas très glorieux, quoi. Il est mort à cause de quoi? À cause d'une petite adolescente qui a fait, qui a réclamé, quoi. Voilà. Mais il est beau l'évangile de la mort de Jean-Baptiste, hein. C'est l'évangile de la co-rédemption, hein. C'est Marie qui a livré son fils, qui a demandé pour le grand. C'est vrai? C'est. Il y a un très 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 beau commentaire de théologie mystique de la manière de se passer de Martin Jean-Baptiste pour faire toute la théologie de la co-rédemption. Le Père a livré son fils. Dans la sagesse de la croix, Marie, l'Immaculée, sa mère, a livré son fils. Elle était la médiatrice, elle a demandé que son fils, voilà, elle a demandé au maître du monde, au Seigneur de l'univers, et elle a livré son fils. C'est faudrait regarder en détail. Vous le ferez. Si vous le faites, vous verrez. Vous avez les traces, en fait, en dégâts. Et comme Abraham savait très très bien ce qu'il faisait quand il sacrifiait Isaac, il engendrait à l'intérieur de la paternité de Dieu de quoi faire la... Si Abraham est capable de devant son fils, moi, le bon Dieu, ben, je suis engagé immédiatement à cause de la foi d'Abraham à livrer mon fils pour qu'il soit immolé comme agneau. Et Abraham le savait très très bien ce qu'il faisait, qu'il engageait Dieu en faisant ça, dans son obéissance. Et Jean-Baptiste aussi, il savait très très bien. En acceptant son cette mort sans gloire, il en engageait le ciel, la maternité divine de Marie. Dans ce mystère de co-rédemption, a engendré l'immolation éternelle, enfin immortelle, l'immolation immortelle de son fils bien-aimé en le livrant dans le fond. Son immolation jusqu'à la fin du monde. Et c'est sur un plat. Quand je prends la patène, eh bien, vous avez la coupe et puis vous avez la patène. Vous n'avez jamais pensé à ça. Sur un plat, apportez-moi sur un plat la tête de Jean-Baptiste. La médiation de Marie qui est représentée par la patène. Médiation, elle est médiatrice. Elle livre son fils, elle l'offre en offrande victimale. Et le calice, c'est plutôt Saint-Joseph qui est représenté dans le calice, là, au niveau du sacrement. La coupe, c'est toujours la paternité, toujours, dans la Bible, toujours. L'Apocalypse. Et les mitrages et la tradition infaillible d'Israël. Voilà, écoutez, on va célébrer la messe de Jean-Baptiste, mais c'est trop beau. On aura commencé avec Marie-Reine, Immaculée de l'univers, et on termine par le martyr de Jean-Baptiste. C'est magnifique. Hein. Quelle descente extraordinaire. Et la croix glorieuse est née de ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand je suis descendu comme ça dans Saint-Joseph, justice et vérité sont là. Et Jean-Baptiste est mort et c'était la cause méritoire dans les cœurs s'unis, je suis avec les gens. De la création, c'est vraiment la création, c'est l'engendrement à partir de la création de Marie. De la lumen gloriae, c'est-à-dire du monde de la résurrection, Saint-Joseph a été immédiatement, et Jésus aussi, inondé dans toute son âme de la lumière de gloire. Pendant 36 heures, il était dans la lumière de gloire de la résurrection, dans leur âme, attention. Et le monde de la croix glorieuse a été ainsi engendré. Et mon père Jean, il est mort à cause de ça. Drôlement touchant, vous savez. Ça, la croix glorieuse, c'est très, 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 très fort, vous savez. J'attends qu'un jour, un film, on puisse faire un film sur la croix, sur ce qui se passe à l'intérieur de la croix glorieuse. Pendant 36 heures, il y a 36 mystères dans la croix glorieuse. On doit pouvoir expliciter. Quand on médite le mystère du rosaire, il faut qu'on puisse voir ce qui s'y passe, s'y engloutir, y assister, le découvrir, s'en imprégner et en être transformé. C'est pour ça qu'on met des croix glorieuses partout. pour signaler aux chrétiens que maintenant on fait ça. Le baptême. Le baptême de l'Immaculée Conception. Dans toutes nos conceptions. Pour être conçu à l'intérieur de la croix glorieuse. Et ça, c'est le secret du cinquième psaume de l'Apocalypse. Et pour ça, le bon Dieu, il choisit sur la terre, 7 milliards d'habitants, il a choisi Jean. À un moment. Hein. Je comprends. J'ai jamais vu quelqu'un sur la terre qui, de chaque seconde, chaque minute de sa vie, a vécu sans gloire comme lui. Jamais. Un milligramme de gloire pour lui. Il a toujours vécu sans gloire. Il est toujours mort sans gloire. Toujours. C'est extraordinaire. Et c'était du rien du Père Marito. Extraordinaire. Nous lui avons fait miséricorde. Pour le recevoir dans la congrégation. On lui a fait miséricorde. Tu te rends compte? C'est lui qui tenait tout à lui tout seul. C'est incroyable. Comme la présomption. Bien, moi. Parce que ça fait partie, Jean, le mystère de la vie de Jean, et puis des frères de Saint-Jean, on va dire aussi. Hein. C'est une immense lumière pour comprendre le mystère de l'Antichrist. Une immense lumière pour démasquer comment fait l'Antichrist. Où est ouais, le Christ. C'est en 94 aussi hein, qu'Ephraïm a décidé d'abandonner la lutte sur la mémoire ADI et sur l'animation immédiate. C'est en 94. Et ça n'a pas traîné. Hein. L'année qui a suivi, ça a été PNL, Ennéagramme, Métaphysique, Paralin, d'autres, tout ça. Et puis forcément, après, ça a été le bouge. 94. C'est là qu'il y a eu la chute. Pas seulement des frères Saint-Jean, il y a eu la chute vertigineuse des béatitudes. La chute vertigineuse des communautés charismatiques. La naissance de la bénédiction de Toronto et de la troisième vague. Tragédie à la mort de Jean. Et alors, un père Benel disait à Jean, je vais te dire Jean, on ne te canonisera pas parce que on ne canonise les gens que s'ils sont imitables. Et on ne peut pas t'imiter. Tu vois, tous les chrétiens sont là, comme la gaffe et tout. On ne peut pas imiter Jean. On ne peut pas le donner comme exemple pour suivre ce qu'il a fait, faire ce que, comme il a fait. Non, on ne peut pas. Alors, en tout cas, on ne le dira pas. Mais moi, on me canonise de l'argent. Ah oui, parce que moi, j'ai assisté à ma canonisation. J'ai une vision. Oui. Et quand le pape, j'ai vu à l'avance ma canonisation à Rome. À vous voir. Et moi, genre, tu vois, moi, je serai canonisé. Et pas toi. Et c'était marrant tous les deux.
Il est canonisé?
Non. Mais c'était les petites joutes rigolotes entre Jean et Eve. Et quand j'ai vu, j'étais là, à la place où il y a la statue de Saint-Jean Bosco à Rome, à la place de Saint-Pierre, et je regardais d'en haut. Je me dis, mais on canonise quelqu'un, mais j'ai jamais vu autant de monde. Sur la place Saint-Pierre. Mais qui est-ce qu'on canonise? Ah, j'ai bien écouté. Canonisamos Pater Emmanuel de Floris. Oh! C'est moi qui suis canonisé. Dans la bulle de canonisation, le Saint-Père prononce pourquoi canonise. Alors, si j'écoute, il dit Propter maximam humilitatem suam. Oh! À cause de sa humilité maximum. Tu vois, Jean, eh ben, tu vois, l'Église reconnaît que je suis humble. Écoute, Jean, on peut pas te prendre un exemple. C'est pas possible. Tu n'obéis pas, tu fais toujours le pire. Écoute, allez. Voilà, en face de moi, je mets une pomme sur la table, voilà. Moi, je te demande au nom de la Sainte Obéissance, voilà. Tiens, voilà. Moi, je tire cette pomme, Jean. Elle est à moi. Et bien, je te redonne, Jean. Je te demande au nom de la Sainte Obéissance de dire, eh bien, mon père, non, cette pomme n'est pas à vous, elle est à moi. Je te l'ordonne. Alors le père venait prendre la pomme, dit Jean, cette pomme-là, elle est à moi. Alors Jean regarde la pomme, il cherche notre Seigneur Jésus-Christ à droite, il cherche notre Seigneur Jésus-Christ à gauche, il regarde la pomme.
C'est vrai.
Et puis il dit, eh bien, non, cette pomme, mon père, est à moi. Alors le père Manel dit, ah non, Jean, elle est pas à toi, cette pomme est à moi. Alors Jean regarde à droite, bon, eh bien, puisqu'elle est à vous, bien prenez-la. C'est exactement ça. Ça a l'air idiot, mais c'est pas si idiot que ça. Je cherche bien notre Seigneur Jésus. Et si nous cherchons notre Seigneur Jésus-Christ, nous cherchons surtout la nuit. Et c'est dans la nuit. Et c'est avec la matière et bien de l'Eucharistie que nous cherchons. Et quand il viendra, eh bien, il nous prendra. Et ceux qui ne veillent pas, eh bien, ils ne seront pas pris. Ils sont surpris. Il s'est entre minuit et 3 heures, il était sur sa chaise, Jésus est rentré, il a pris la main, et il l'a amené au Père Emmanuel. Et du coup, Il a été envoyé sur la terre pour tirer faux planter des croix glorieuses. C'est bizarre, hein? On comprend pas tout, hein? Ça fait quoi? 94 et aujourd'hui ça fait combien au total maintenant? C'est combien de temps? 6 plus 17, 23, c'est le troisième anniversaire de ça.